Comme on le dit au Québec, bon matin à toutes et à tous. Je suis content effectivement de vous retrouver après 2 semaines d'absence et nous avons eu de bonnes vacances avec Damaris. C'est vrai que nous accusons encore le coup avec le décalage horaire, mais ça devrait aller pour ce matin. Avez-vous fait l'expérience d'aller dans un lieu et de passer pour un parfait inconnu ou une parfaite inconnue? Alors, j'imagine que c'est éventuellement le cas dans un centre commercial, dans une salle de concert, dans un stade sportif ou dans un nouveau lieu de vacances. En fait, dans ces endroits, nous sommes rarement, il me semble, rarement reconnus par les gens. Nous passons pour des anonymes, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on habite dans une grande ville. Toujours dans le registre des expériences, avez-vous déjà visité une église? Une communauté, et être reparti sans que l'on vous remarque, comme si vous étiez un parfait inconnu. Il me semble que si cette église a pour chef Jésus-Christ, il ne devrait pas en être ainsi. L'expérience commune devrait être, dans les églises, comme ce que Damaris et moi avons vécu les 2 dimanches passés au Canada, dans 2 églises différentes. C'est-à-dire que, en fait, bien sûr, tout le monde ne s'est pas rué sur nous, hein, mais nous avons été accueillis, nous avons été remarqués, nous avons été traités comme membres de la famille de Dieu. Nous n'étions pas totalement des anonymes. Alors, comment expliquer cela si ce n'est à cause du commandement de Jésus de s'aimer les uns les autres? Et ce commandement, l'apôtre Jean le rapporte dans son évangile et dans ses lettres. Et ce matin, pour démarrer une nouvelle série de prédications intitulée Les uns les autres, eh bien nous méditerons sur ce commandement de s'aimer les uns les autres. Nous l'avons lu, hein, dans 1 Jean chapitre 4. S'aimer les uns les autres, c'est ce que Dieu commande. Et c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Et il est tellement nécessaire, il me semble, d'entendre encore ce commandement du Seigneur. Et de continuer à le mettre en pratique, en particulier ici, au sein de l'Église de la Pie. En réalité, si quelqu'un affirme connaître Dieu et être chrétien, il ne peut qu'aimer ses frères et sœurs, comme le Seigneur le commande. Mais attention, n'ayons pas des attentes surréalistes à l'égard de nos frères et sœurs. Ils sont encore en chemin. Ils ne savent pas encore comment aimer comme il faudrait. Ne soyons pas trop exigeants. C'est pourquoi nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne encore sur ce que signifie, sur ce qu'est aimer. Et je déclinerai le message d'aujourd'hui en 3 temps. D'abord, nous verrons la raison de s'aimer les uns les autres, qui est évoquée dans notre texte. Ensuite, le devoir de s'aimer les uns les autres, puisque c'est exprimé de cette manière-là. Avant de terminer sur quelques considérations pratiques. D'abord, la raison de s'aimer les uns les autres. Dans sa lettre, quand Jean parle de l'amour mutuel, il en fait une des preuves de la foi authentique. Autrement dit, si quelqu'un aime ses frères et sœurs en Christ, il montre par là qu'il est vraiment chrétien. Si quelqu'un aime ses frères et sœurs en Christ, il montre par là qu'il est vraiment chrétien. Et à contrario, à l'inverse, nous pouvons avoir de sérieux doutes sur la foi de quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux autres croyants de la communauté, qui ne s'implique pas pour servir les autres, qui vient et repart quasiment comme un parfait inconnu. Évidemment, il faudrait mieux connaître la personne avant de tirer des conclusions trop hâtives. Néanmoins, le propos de Jean, c'est de montrer à ses destinataires comment reconnaître les vrais frères et sœurs en Christ, dans un contexte où il y avait de faux frères, des gens qui n'étaient pas chrétiens en réalité. Et Jean leur montre comment les identifier, comment identifier les vrais chrétiens, si effectivement ils ont de l'amour pour les frères et sœurs. Et la raison principale pour laquelle Dieu demande aux croyants de s'aimer les uns les autres, cette raison principale se trouve en lui-même, en Dieu. C'est ce que nous voyons au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et je crois qu'il n'y aurait pas autant de chrétiens dans le monde si Dieu n'était pas amour. Si l'amour nous paraît une si belle vertu, c'est parce que la source même de l'amour, c'est Dieu. Aimer son frère, aimer sa sœur en Christ, c'est la preuve que nous connaissons Dieu, qui est amour. Et la raison principale pour laquelle Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est parce que Dieu lui-même a exprimé son amour envers nous d'une manière concrète. Personne, vraiment personne, ne nous aime autant que Dieu. Pas même nos propres parents ou nos enfants. Personne ne nous aime autant que Dieu. Et comment je sais que Dieu m'aime à ce point ? Eh bien, nous avons la réponse dans les merveilleux versets 9 et 10. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu s'est manifesté dans le passé, avant même que nous soyons sur cette terre. Au moment où Jésus est venu dans ce monde, au moment où il a porté nos péchés sur la croix, Dieu a signé dans l'histoire l'acte d'amour le plus grand et le plus extraordinaire. Si Dieu ne nous avait pas aimés, il n'aurait pas envoyé Jésus dans le monde. Tout simplement. Il nous aurait laissés sans espoir et sans avenir. Mais en réalité, Dieu nous aime. Dieu nous aime bien plus que ce que nous pouvons en comprendre, bien plus que ce que nous pouvons penser de Dieu. Il nous aime plus que personne d'autre. D'une manière ineffaçable, Dieu nous a manifesté son amour en envoyant, il y a 2000 ans, Jésus, notre Sauveur. Et c'est par sa mort sur la croix que nous échappons à la condamnation que nous aurions dû subir à cause de nos fautes. Regardez de nouveau comment le salut nous est décrit au verset 9. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Dieu avait le choix de nous laisser sous la condamnation et de ne pas du tout nous sauver. Mais parce qu'il nous aime, il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Cet amour que nous ne cessons de célébrer a pris forme sur la croix. Et c'est bien pour nos péchés, dit Jean, c'est bien en tant que victime sacrifiée à notre place que Jésus meurt. Et d'un côté, cette croix montre l'horreur de notre péché et le jugement qu'il mérite. Et de l'autre, elle nous témoigne l'amour sacrificiel de Dieu. Dieu qui se sacrifie pour nous. Dieu nous aime tant que précisément il a envoyé son Fils à la mort à notre place, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle, pour que par Jésus nos péchés soient pardonnés et que la colère de Dieu soit apaisée. Autre confirmation, le fait que Jésus soit ressuscité. Eh bien, sa résurrection confirme que Dieu a validé le sacrifice, le don de sa vie, pour que nous puissions, sur la base de ce sacrifice, bénéficier du salut qui en découle. Ça, mes amis, ça s'appelle l'amour. Un Dieu qui se donne jusqu'à la mort. Ça, c'est le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Et encore une fois, nul autre dans tout l'univers ne nous aime comme ça. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est sans doute un rappel. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu nous a tant aimés. Considérons maintenant ce devoir chrétien, le devoir de s'aimer les uns les autres. Eh bien, ce devoir est exprimé au verset 11. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Si nous avons premièrement bénéficié de l'amour de Dieu, la suite logique est d'aimer à notre tour les autres. Dieu nous a tant aimés que ce serait le trahir que de ne pas aimer nos frères et sœurs. Ce serait rejeter Dieu dans ce qu'il est, lui qui est amour. Et nous pourrions nous demander comment un Dieu parfait, un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère pas le péché, comment peut-il aimer des pécheurs comme nous ? Comment peut-il aimer des personnes qui sont capables de commettre le mal, de lui désobéir, d'être rebelles à lui ? Redisons-le, si Dieu nous aime, ce n'est pas parce que nous sommes aimables et méritants, mais parce que c'est dans sa nature d'aimer. Si Dieu cessait d'aimer, il cesserait aussi d'être Dieu. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Et ça n'a rien à voir avec nous, avec le fait de mériter son amour. Dieu nous aime parce qu'il est amour. S'il y a bien quelqu'un qui puisse nous apprendre à aimer nos frères et sœurs dans l'Église, et c'est bien lui. Et vous notez bien ce que Jean dit ici, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Nous avons un devoir, nous avons une obligation liée au fait que nous sommes disciples de Christ, liée au fait que nous sommes enfants de Dieu, liée au fait que nous connaissons Dieu, liée au fait qu'il nous a aimés. Une obligation, un devoir auquel aucun chrétien ne peut échapper. Une obligation aussi parce que le Seigneur nous le commande. Et l'apôtre Paul le dit d'une autre manière, mais qui rejoint ce que Jean dit en Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne, mais vous devez une chose aux autres, c'est de les aimer. Vous avez une dette à l'égard des autres, c'est de les aimer. De la même manière, nous n'aimons pas nos frères et sœurs parce qu'ils sont aimables. Ils ont plutôt des défauts. Mais parce que c'est dans la nature des chrétiens d'aimer les autres chrétiens. Tout comme c'est dans la nature de Dieu de nous aimer. Plus Dieu nous transforme à l'image de son Fils, et plus notre capacité d'aimer grandit, et plus nous obéissons au commandement de nous aimer les uns les autres. Et cela nous fait prendre conscience que pour aimer nos frères et sœurs, nous avons besoin que l'Esprit Saint produise en nous le fruit de l'amour. Et ce qui est réjouissant, c'est que précisément l'Esprit est déjà en nous et fait déjà cette œuvre en nous pour nous rendre capables d'aimer les autres. Parce que ce n'est pas toujours facile d'aimer les autres. C'est facile lorsque les autres sont bienveillants, lorsque les autres nous encouragent, nous félicitent, nous aiment. Mais qu'en est-il des frères et sœurs peut-être avec qui nous avons moins d'affinité, ou peut-être même dont nous ne supportons pas le tempérament? Oui, nous avons besoin de Dieu pour aimer. En toutes circonstances, et tous les frères et sœurs, quels qu'ils soient. Et plus les années passent, et plus mon amour pour l'Église grandit. Plus les années passent dans l'Église et plus je comprends l'importance de ce commandement. Et comme Paul le dit, celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous voulez accomplir la loi ? Vous voulez obéir entièrement à Dieu ? Aimez les autres. Et particulièrement, aimez vos frères et sœurs dans l'Église. Avons-nous compris qu'il est de notre devoir d'aimer les autres ? Pas simplement que c'est une belle idée, mais que c'est un devoir. C'est vrai qu'en France, on aime bien insister sur les droits, mais on a aussi des devoirs. Et dans l'Église, l'un des devoirs pour les chrétiens, c'est d'aimer les autres. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour l'égoïsme, il n'y a pas de place pour l'individualisme. Sinon, vous vous êtes trompé d'Église. L'Église est la communauté de l'amour. Et c'est dans ce cadre privilégié que Dieu nous interpelle pour mettre en pratique le texte de ce matin. Et j'y viens justement, de manière plus concrète encore. J'aimerais passer en revue deux considérations pratiques, deux questions à se poser par rapport à ce commandement de s'aimer les uns les autres. Dans l'impératif de s'aimer les uns les autres, qui sont les uns et les autres ? Est-ce que ce sont tous les croyants de la terre ? Est-ce certains croyants avec qui nous sommes plus proches ? Durant ma préparation, une remarque d'Alfred Kuhn m'a fait réfléchir sur ce sujet. Et voici ce qu'il écrit dans son livre « Les uns les autres ». Ces autres, dit-il, ne peuvent pas être tout le monde. Ce sont des gens précis que l'on connaît, avec lesquels on entretient des relations privilégiées. Quand on dit de s'aimer les uns les autres, ces autres sont les frères et sœurs que nous pouvons identifier dans l'Église. Et il va de soi que nous ne pouvons véritablement aimer le frère et la sœur avec qui nous avons une relation. Il va de soi que nous pouvons véritablement aimer le frère et la sœur avec qui nous avons une relation, mais que nous ne pouvons pas véritablement aimer le frère et la sœur avec qui nous ne parlons jamais. Et Alfred Kuhn continue en disant, si nous voulons obéir aux différents impératifs associés à l'expression « les uns les autres », nous devrons aller bien au-delà des relations qu'il est convenu d'entretenir entre bons voisins. Si je veux exhorter mon frère, il faut que j'apprenne d'abord à le connaître. S'il doit veiller sur moi, je ne puis me retrancher derrière l'excuse commode, ce sont mes affaires privées. Si en Christ nous sommes des frères et des sœurs, nous ne pouvons pas rester dans l'anonymat. Dans une communauté de cette taille, comme la nôtre, il est possible de connaître tout le monde. Dans une communauté bien plus grande, ce serait sans doute plus difficile et il y aurait d'autres pistes de réflexion par rapport à comment mettre en pratique le fait d'aimer les uns les autres. Mais dans une communauté comme la nôtre, en réalité, on peut vraiment connaître tout le monde. Au moins avoir quelques informations sur les uns et les autres. Et je trouve par exemple que c'est une bonne chose d'utiliser le groupe WhatsApp de l'Église pour partager avec les autres ces sujets de prière, de sortir de l'anonymat, de montrer que effectivement les autres comptent pour nous aussi. Prier pour un frère ou une sœur que je peux identifier, c'est une des nombreuses manières de l'aimer. Donc quand on dit s'aimer les uns les autres, ce n'est pas quelque chose de vague. Mais les autres, ce sont ceux que je suis capable d'identifier. Celles et ceux que je reconnais comme frères et sœurs. Mais continuons encore sur cette réflexion sur qui sont les uns les autres. J'ai déjà raconté cette histoire il y a quelques années. Un pasteur raconte ce qui s'est produit dans sa propre communauté. Une dame âgée de son église a reçu à l'hôpital la visite un vendredi soir de quelques jeunes. Et ils étaient venus pour encourager cette dame et pour chanter des cantiques avec elle. Et l'infirmière de garde a demandé à ce groupe de jeunes hommes, si la dame en question était célèbre, avec toute la visite qu'elle avait reçue. Et les jeunes hommes ont simplement répondu, « Non, elle n'est pas célèbre. Elle est membre de notre Église. » Et cela m'amène à aborder brièvement la question de ce que signifie être membre d'une Église locale. Pourquoi est-ce important ? En quoi est-ce biblique ? Eh bien, lorsque nous devenons membres d'une église locale, nous trouvons le cadre pour vivre précisément ce que Jésus commande, à savoir nous aimer les uns les autres. En tant que membres, nous nous engageons dans la communauté. Nous nous engageons à servir les autres, à encourager les autres, à prendre soin des autres. En étant membres, nous avons le souci des autres membres. Et les autres se soucient de nous. Repensez à l'histoire que je viens de vous raconter. La raison principale pour laquelle ces jeunes ont visité cette dame, c'est parce qu'elle est membre de l'Église. Elle est une des leurs. Ce qui est mis en avant, ce ne sont pas d'abord les affinités. C'est le fait de faire partie d'une Église locale, du corps de Christ, de la famille de Dieu. Considérez encore une autre situation, puisque tout à l'heure nous avons parlé de mariage, eh bien je reviens sur ce thème. Dans notre culture, il est courant d'assister au mariage d'une personne que nous connaissons, avec qui nous avons un certain lien. Et si maintenant c'est un frère et une sœur de l'Église qui se marient, et que nous ne sommes pas proches d'eux relationnellement, comprenez qu'ils ne font pas partie de notre cercle d'amis, est-ce que nous allons assister à leur mariage ? Autrement dit, est-ce l'amitié qui prime ou le fait qu'ils soient membres de notre Église ? Dans le premier cas, si c'est par amitié, cela ne ferait aucune différence que l'ami soit chrétien ou non. Parce que pour un non-croyant, on ferait la même chose. Dans le second cas, si c'est parce que c'est des membres de notre Église, nous privilégions le lien fraternel. Et cela donne à réfléchir, n'est-ce pas ? Bien que je ne sois pas proche de cette personne, parce qu'elle est membre de mon Église, j'assisterai à son mariage. Qui sont les uns les autres ? Des frères et des sœurs que je peux identifier dans l'Église, et en particulier dans l'Église locale. Et je voudrais attirer votre attention sur une deuxième considération. En quoi consiste le fait d'aimer les autres ? En quoi consiste le fait d'aimer son frère et sa sœur en Christ ? Eh bien, cela commence sans doute par une salutation, puis une conversation, un intérêt pour l'autre qui nous conduira peut-être sur la voie de l'amitié, mais ce n'est pas certain, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde, en tout cas ami dans le sens profond du terme. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Et en Jean 13, verset 34, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jésus commande à ses disciples, à ceux qu'il appelle amis, de s'aimer mutuellement comme il les aime. Et l'amour dans la Bible a toujours un caractère concret. Ce ne sont pas que des paroles, mais l'amour se traduit par des actes concrets. Et comment Jésus a aimé les siens ? Eh bien, de manière concrète, en donnant sa vie pour eux. Comment devons-nous aimer nos frères et sœurs ? De la même manière, en étant prêts à se donner aux autres. Et Jean le dit d'ailleurs dans sa lettre, dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 et 17, On connaît Jean 3,16, mais 1 Jean 3,16 est peut-être moins connu. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons, de nouveau, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et Jean ajoute un cas concret pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? De manière concrète, à l'époque, aimer, c'était venir en aide aux frères, à la sœur qui était dans le besoin. Alors sans doute le besoin matériel ici. Mais j'aimerais nous questionner, nous arrive-t-il de fermer notre cœur quand nous voyons notre frère, notre sœur traverser quelques turbulences dans sa vie ? Et je pense que vous le comprenez, aimer les autres est à certains égards coûteux. Cela coûte en temps, cela coûte en disponibilité. Il s'agit d'être à l'écoute de celui ou celle qui souffre. Il s'agit de l'encourager, de prendre le temps de prier pour lui ou pour elle. Aimer les autres ne se fait pas sans effort. Et là aussi, c'est Jésus qui est notre exemple remarquable. Parce que pour lui, aimer lui a coûté la vie. Alors je nous encourage ce matin à nous aimer les uns les autres d'une manière concrète. Pas juste avec des mots, pas juste avec des encouragements, même si c'est déjà beaucoup. Mais de manière concrète, avec un esprit de service, avec un esprit de sacrifice. Tel que Jésus a pu le manifester quand il était sur terre. Et peut-être que cette suggestion d'Alfred Kuhn pourrait nous y aider. Voici ce qu'il suggère comme application. Commençons donc par passer en revue dans la prière tous les membres de notre Église. Arrêtons-nous sur chacun d'eux en demandant à Dieu ce que nous pourrions faire pour lui prouver notre amour. C'est peut-être le premier pas. Prier en particulier pour les personnes pour qui on n'a pas l'habitude de prier. Mais on sait qu'elles sont dans l'Église. Alors peut-être que ça nécessite de savoir quels sont les besoins de cette personne et donc d'aller lui parler. Et puis arrêtons-nous pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour cette personne. Pour lui manifester mon amour. Notre série de prédications n'est qu'au début. Et d'autres exemples concrets de l'amour mutuel seront évoqués dans les semaines suivantes, comme le fait de prendre soin les uns des autres, comme le fait de s'encourager les uns les autres, ou encore de se pardonner mutuellement. Donc, un peu de patience, il faudra revenir le dimanche suivant et les dimanches suivants pour continuer à réfléchir sur cette question-là. Un père de l'Église qui s'appelle Jérôme raconte l'histoire de l'apôtre Jean dans sa vieillesse à Éphèse. Il devait être soutenu par ses disciples, parce qu'il était vieux, et ne cessait de répéter « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Ses disciples lui ont demandé « Maître, pourquoi est-ce que tu dis toujours ça ?»« Parce que, dit-il, c'est le commandement du Seigneur, et si vous faites cela suffit. » Si vous faites cela, cela suffit. Il arrive parfois que l'on oppose l'amour fraternel et ce qui se passe dans l'Église à la mission et à ce qui se passe en dehors de l'Église. On oppose l'amour, la communion fraternelle et puis la mission auprès des non-croyants. Mais je trouve remarquable que le Seigneur, en fait, n'oppose pas l'un et l'autre ou ne privilégie pas l'un au détriment de l'autre. Bien au contraire, il réunit les deux. Et ce qui me fait dire cela, c'est ce texte que nous connaissons dans Jean 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est la partie amour fraternel. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est la partie mission. Puissions-nous obéir ensemble au commandement de Jésus, afin que se réalise ce qu'il dit ici, à savoir un puissant témoignage de l'Évangile pour le monde, qui observe l'Église où les uns et les autres s'aiment mutuellement. Oui, je le crois pleinement. Si nous mettons en pratique continuellement ce que Jésus nous commande, cela laisse un puissant témoignage pour ce monde, qui reconnaîtra que l'Évangile est vrai, qui reconnaîtra que Jésus est vrai. Et il le verra par l'Église. Amen. J'aimerais vous laisser un temps de réflexion, de réponse par rapport à la parole de Dieu. Et je conclurai par la prière. Même celui et celle qui ne nous paraît pas aimable, mais tout simplement parce que cette personne t'appartient et que pour elle, Christ a donné sa vie. Oui, donne-nous de voir avec tes yeux et de pouvoir aimer avec la puissance de ton esprit. Parce que nous le comprenons, c'est un commandement qu'il s'agit de mettre en application continuellement. Et nous n'avons jamais fini de nous aimer les uns les autres. Nous ne sommes jamais arrivés au bout de ce commandement. Alors aide-nous à pouvoir aimer aussi avec persévérance, avec fidélité. Merci encore, Seigneur, pour ton Église, parce que je la crois belle grâce à ton œuvre pour elle. Et je crois que mes frères et mes sœurs qui sont ici, qu'ils soient de cette communauté ou d'ailleurs, eh bien, savent et ont entendu ta parole. Ils ont entendu que tu as commandé à ton Église que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et Seigneur, nous nous engageons à le faire. C'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen.